19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bien, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous. Comme chaque soir, nous sommes ensemble. Ensemble pour décrypter, commenter et analyser l'actualité, vous le savez plus que jamais. Et dans cette émission, nous sommes ensemble pendant une heure jusqu'à 20h. Alors au menu, qu'est-ce que je vous propose? Tiens, ce soir, nous allons revenir sur l'actualité d'une néobanque qui est complètement engagée, néobanque responsable. On interviendra évidemment avec notre invité Kamal Aïtoutaleb qui sera avec nous après avoir passé 17 ans en banque. Et bien, il a décidé de tourner son projet essentiellement dans un impact environnemental positif. Ensuite, tout à l'heure, nous aurons un autre invité, le député de la Seine-Saint-Denis, Patrice Anato, qui a reçu une lettre raciste aujourd'hui. Nous avons décidé de le soutenir et évidemment de le mettre à l'antenne avec nous pour parler de ce qui lui arrive et surtout de ce contenu, de cette lettre horrible qui l'a menacé de mort et des insultes racistes. 19h30, vous savez, c'est la signature du mardi. Et qui dit signature du mardi? Eh bien, c'est Faïza Belmohamed qui viendra, la journaliste indépendante, signer cette fois son billet d'humeur consacré autour de Omar Radad et l'affaire et son procès. Et évidemment, aujourd'hui, vous savez que ça, il y a des rebondissements. Ils ont décidé de ressortir tout cela. Le face-à-face, Sabrina Nouri sera face à Rudy Kazi, sera face aussi à Karim Alouache. Trois débatteurs, influenceurs, qui sont avec nous pour commenter les trois sujets d'actualité. Je veux parler, bien tout simplement, vous savez, des footballeuses bientôt autorisées à être voilées en France. C'est la question qu'on soulève. Un comité, un collectif dénommé les Hijabeuses ont saisi le Conseil d'État afin d'obtenir l'annulation du règlement interdisant de jouer au football voilé. Nous en reviendrons aussi sur un autre sujet, celui des députés En Marche de Seine-Saint-Denis, Patrice Anato, qui dévoile donc sa lettre à caractère raciste, qui est menacée de mort. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut être tranquille, serein, évidemment, avec cette ambiance complètement morose, et puis qui a tendance à, évidemment, attirer vers le racisme. Autre sujet aussi, notamment, c'est comment préparer les fêtes, quelles sont les précautions qu'on doit prendre pendant les préparations de fêtes concernant le coronavirus. Évidemment, coronavirus et fêtes, on en parlera tout à l'heure. Les informer, c'est tout de suite, c'est maintenant, et vous le savez, plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informer avec Adil Farkan.
19h03, c'est tout de suite l'invité actu, c'est parti.
Les informer, l'interview.
L'interview. L'interview, c'est avec évidemment quelqu'un qui a passé 17 ans en banque. Il s'appelle Kamal Aïtoutaleb. Bonjour mon cher Kamal.
Bonjour Adil.
Comment ça va, vous allez bien?
Ça va très bien. Oui.
Kamal Aïtoutaleb, vous avez passé 17 ans en banque et vous avez fondé votre propre néobanque. Mais cette fois-ci, elle est responsable, engagée, environnementale, positive. Dites donc, qu'est-ce qui s'est passé mon cher Kamal Aïtoutaleb?
Bah, effectivement, Adil, pendant 17 ans, j'ai évolué dans la banque. J'ai commencé chargé d'accueil, j'ai évolué sur plusieurs postes de conseiller, de directeur, et puis ensuite au siège d'une grande banque internationale. Et il y a 4 ans, bah, j'ai pris la décision de tout quitter pour lancer dans la création d'une néobanque un peu plus éthique. Parce que, au fil de cette carrière que j'ai pu avoir, je me suis rendu compte qu'on pouvait faire les choses autrement, faire de la banque autrement, et notamment de pouvoir créer un compte qui va permettre à des gens d'avoir un impact positif sur notre société, que ce soit d'un point de vue environnemental ou sociétal, parce qu'en fait, on a les moyens, et la banque gagne de l'argent. Cet argent, il faut qu'on le redistribue pour pouvoir financer des projets qui ont besoin d'être financés aujourd'hui.
Alors, dites-moi, mon cher Kamal Aïtoutaleb, vous êtes le président de cette première néobanque avec un impact positif aujourd'hui, qui s'appelle OnlyOne. C'est une application?
C'est ça, c'est OnlyOne. Donc, c'est une application, donc vous avez un compte courant classique, c'est-à-dire que vous avez un compte avec une carte de paiement international Mastercard, et vous pouvez faire toutes les opérations en fait, du quotidien, c'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, verser vos salaires, payer votre carte partout dans le monde, vous pouvez faire des virements, ajouter des bénéficiaires directement sur le compte, vous pouvez aussi avoir des prélèvements, vous pouvez être prélevé de vos abonnements, par exemple, SFR ou autre. Vous pouvez aussi épargner, c'est-à-dire que vous pouvez mettre de l'argent de côté sur des sous-comptes. Donc il y a plein d'options en fait vraiment innovantes.
Oui.
En plus de ça, c'est que on a deux choses intéressantes. C'est la première, c'est que à chaque fois qu'on va
sur
le compte, donc c'est un abonnement 6 euros par mois,
oui,
on a 10% de cette somme qui est versée sur des projets impact positif.
C'est vachement bien. Moi, j'aime beaucoup votre projet parce que Only One, on peut télécharger l'application, elle est complètement disponible sur tous les portables, hein, on est d'accord.
Tout à fait. On est sur Apple et sur Android.
Alors justement, parlons-en. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites « chaque euro peut devenir une bonne action » Vous dites également « épargner votre argent, c'est épargner la planète ». Ça veut dire quoi ça, mon cher Kamal Naït Outaleb?
En fait, à chaque fois qu'on dépense de l'argent qu'on consomme, ça a un impact. Et cet impact, là, aujourd'hui, on parle souvent en ce moment du dérèglement climatique. C'est un sujet qui doit concerner tout le monde.
C'est vrai.
Surtout quand on a des enfants, parce que c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Et en fait, on ne se rend pas compte. Mais quand on consomme, on émet des gaz à effet de serre. Donc, on émet surtout du CO2. Et la question, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que ma consommation, telle que je l'ai aujourd'hui, elle est polluante ou pas? Et là, l'idée, c'est de donner un indicateur par rapport à ça pour aider les gens à consommer différemment. C'est pour ça qu'on dit que chaque euro a un impact. Ensuite, épargner différemment, c'est que quand on vous propose des produits d'épargne, il y a une question à se poser, c'est de savoir qu'est-ce que finance mon épargne.
Oui.
Et malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'épargnes qui ont financé des industries, des entreprises qui sont contraires à nos valeurs. On va parler de l'armement, on va parler de, par exemple, de tout ce qui va être produit polluant, donc des énergies fossiles. On va parler aussi de tout ce qui va être alcool, tabac, etc. Et la vraie question, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que je peux, moi, avoir une épargne qui a un objectif différent, c'est de financer des projets impact, soit sociétaux, soit environnementaux. Et c'est ce qu'on propose, nous. Chaque épargne qu'on va proposer sur notre application aura cette particularité de financer soit un projet environnemental, soit un projet sociétal.
Mais dites-moi, Monsieur le Président, ce qui veut dire que ça sous-entend que vous êtes le premier, vraiment, réellement, premier éco-compte avec un impact positif aujourd'hui.
Exactement. Nous, on a lancé en Ivoire il y a 4 ans maintenant, ça fait maintenant 8 mois qu'on est lancé. Il y a eu 3 ans de travail justement sur l'application, sur la R&D aussi, sur les produits de la technologie qu'on va créer en interne. Et on est vraiment les premiers à avoir sorti cette offre. Et on est plutôt fiers de ça parce que ça n'existait pas. Et on est fiers d'y avoir pensé.
Donc ce qui veut dire concrètement, Kamal Naït Outaleb, que c'est une offre aujourd'hui clairement éthique.
Tout à fait, exactement. Éthique aussi parce que on est une entreprise, donc une entreprise gagne de l'argent. Et la question à se poser aussi, c'est qu'est-ce que fait l'entreprise une fois qu'elle a gagné cet argent? Alors nous, on l'utilise bien sûr pour payer nos salariés, payer nos fournisseurs, mais une partie de cet argent sert à financer un projet qu'on a avec les Nations Unies, donc au travers du fonds UNICEF, pour financer la lutte contre la malnutrition. Et on a un second projet qui est un projet de, on va dire, de
protection
de la biodiversité. Là, on installe des ruches en France. Donc, on parle beaucoup aussi de la perte des abeilles, de la pollinisation qui est importante à la vie sur Terre. Bah, nous, on s'engage justement à pouvoir proposer des financements de projets de protection de la biodiversité.
Donc, une néobanque, j'ai envie de vous dire, citoyenne et engagée, en quelque sorte.
Tout à fait. Tout à fait.
Aujourd'hui, vous existez depuis peu de temps, d'ailleurs.
Hein. Oui, on existe depuis maintenant. Alors, la société a été créée il y a 3 ans. Demain, on fêtera nos 3 ans, justement. On est enregistré auprès du régulateur qui s'appelle ACPR, donc c'est quelque chose de sérieux. Et on a lancé vraiment l'application en première version pour la tester avec nos premiers clients depuis le mois d'avril. Et maintenant, voilà, on a besoin de pouvoir aller conquérir nos clients, de pouvoir proposer notre offre. Et d'ailleurs, j'en profite à un deal pour vous annoncer qu'on propose une offre particulière pour vos auditeurs.
Ah, laquelle?
On fait 50% sur l'abonnement pendant un an avec le code BEURFM en majuscule pour tous vos auditeurs.
Eh bien, écoutez, je ne savais même pas. C'est une belle surprise, mon cher Kamal Naït Outaleb. Bonne surprise pour nos auditeurs qui vous écoutent partout en France. Donc, il suffit de télécharger l'application Only One, si j'ai bien compris.
Ça.
Only One. Et il bénéficie de facto de 50% sur toutes les prestations avec le code BEURFM en majuscule.
Exactement, pendant un an.
Bon, bah, écoutez, chers amis auditeurs, je vous laisse le soin d'aller évidemment découvrir cette application qui s'appelle Only One. Quels sont vos futurs chantiers concernant évidemment cette néobanque engagée, citoyenne, environnementale, mon cher président?
Écoutez, les prochaines étapes, c'est déjà de proposer aussi une version pour les ordinateurs, ça c'est une première chose. La seconde, c'est qu'on va proposer aussi d'autres produits d'épargne. On va étoffer justement notre marketplace. On va proposer des produits, notamment de la vie quotidienne. On en a quelques-uns aujourd'hui, notamment fournisseurs d'énergie verte. On a aussi la possibilité de télécharger une application anti-gaspi. Donc, on a quand même pas mal de futurs partenaires qui vont rejoindre Liwan. Et on va demander, on espère, pouvoir avoir un agrément qui nous permette d'avoir plus d'options, notamment par exemple demain si on établit son paiement, de pouvoir déposer des espèces sur le compte Donc ça, on espère le faire en 2022.
Eh bien, écoutez, donc on peut le considérer aujourd'hui qu'effectivement, vous êtes la première néobanque engagée, citoyenne environnementale, avec évidemment cette action et des valeurs concernant les engagements. On l'aura compris pour nos auditeurs, donc 50% évidemment si vous allez télécharger l'application Only One, avec le code bien sûr, le code d'accès Beurre FM en majuscule. Un dernier mot à nos auditeurs, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter mon cher Kamal Naito Taleb?
Bah écoutez, on a besoin de force aujourd'hui, on a besoin justement qu'on ait des personnes qui nous font confiance, qui s'engagent avec nous, pour pouvoir demain être plus grand, et plus on est nombreux, et plus on sera plus fort justement pour pouvoir financer tous ces projets qui nécessitent d'être financés. Et encore une fois, vous verrez, l'application c'est très fluide, en 5 minutes, avec une carte d'identité, vous pouvez ouvrir votre compte.
La néobanque française, donc Only One, qui développe donc une offre éthique solidaire et environnementale, éco-responsable. Merci d'avoir été avec nous, monsieur le fondateur, Kamal Naït Outaleb, et on souhaite évidemment bon vent à votre néobanque engagée. Merci, mon cher Kamal.
Merci Adil, merci de l'invitation.
Merci, avec plaisir, 19h10. Tout de suite, tiens, je vais présenter nos auditeurs avant de retrouver Patrice Anato, le député, qui sera avec nous dans une poignée de minutes, et la lettre raciste et les menaces de mort qu'ont été évidemment qu'il a reçues. Ce matin d'ailleurs, il a décidé d'en parler. Je vais commencer par la seule femme qui est avec nous, Sabrina Nouri, qui représente l'écologie, écologiste. Qu'est-ce qu'il y a pour eux ?
Non, mais j'ai rien dit encore.
Ah, ça va, vous allez bien ?
Mais ça va, et vous ?
Oui, il regardait avec des grands yeux. Non. Disant, qu'est-ce qu'il va me raconter, lui, encore ? C'est ça, non ?
Non, c'est ça, oui. La oui. France insoumise, quand
la
même.
La France insoumise. Voilà.
Le goûter est prêt, en tout cas.
Le goûter est prêt.
Toujours.
Ouais, je vois ça, là. Vous êtes bien, là, ça va ?
Ah, moi, je me suis installée. Je suis comme chez moi, ici.
Vous avez raison. Faites comme à la maison. Vous êtes chez vous.
On a pris le même bus. Elle a été plus prompte que moi pour arriver.
Oui, vous avez vu, elle était rapide. Hein. Ouais, c'est ça, les femmes. Les femmes, elles ont une particularité, c'est d'aller... Elles ont une longueur d'avance, absolument. Karim Alouache, autre financier. Comment bonsoir. Ça va, mon cher Karim ?
Ben écoute, ça va bien. Une grosse actualité surbondie, hein,
oui, c'est vrai.
On est dans la campagne. Hein, ça y est.
Vous êtes en plein dedans, là.
Ouais,
en plein dedans. C'est quand ? Rappelez-nous
le
la date.
Le premier tour, le 23 janvier.
Le Conseil constitutionnel a validé, quoi. Il n'y a même pas deux semaines. Hein,
Ça a mis longtemps à sortir la publication, mais on est
24 janvier, il y a du chemin encore.
Alors, nous, on est en plein dedans. Enfin, moi, ça fait un an et demi que je travaille dessus.
Ça va aller vite. Hein.
Je travaille dessus depuis un an et demi. Et puis,
oui.
Quand bien même il n'y aurait pas eu d'annulation, on travaille aussi pour l'avenir. Hein. Le terrain, ce n'est pas juste le jour de la campagne ou le mois de la campagne ou les deux mois de la campagne.
Ah bah, j'espère bien parce que, effectivement.
On a un beau projet.
Oui, lequel ?
Parce que pour la première fois, si nous gagnons, dans une majorité municipale, il y aura un groupe société civile. Comme les groupes partis politiques, eh bien, dans l'équipe que j'ai rejoint, il y aura un groupe société civile.
Bon.
Et je porterai ce groupe qui sera aussi, quelque part, un peu un contrepoids. Parce que faut être courageux en tant que maire d'intégrer dans sa majorité un groupe qui peut aussi vous challenger sur pas mal de sujets.
Absolument.
C'est vraiment l'innovation de cette campagne.
Et bien, on va suivre tout cela sur l'antenne de Beurre FM. Dans les informés.
Avec plaisir.
Face à vous, c'est Rudy Kazi, justement conseiller municipal à Saint-Germain. Arpajon, voilà.
C'est ça.
Et vous êtes aussi dans l'association des élus de France.
Je suis délégué général de l'association.
Ah, délégué général, vous avez raison. Vous êtes aussi.
Des élus de France, dont Patrice Anato, effectivement, fait aussi partie.
Qu'on va accueillir dans une poignée de minutes, d'ailleurs.
J'étais effectivement en conversation un peu tout à l'heure.
Ben écoutez, il sera avec nous dans une poignée de minutes, justement. On va marquer la première pause pub. Et on se retrouve avec Patrice Anato, le député de la Seine-Saint-Denis, justement. Et on lancera les débatteurs. Justement, on lancera le débat sur ces trois sujets. On commencera avec les hijabeuses. Vous en avez entendu parler ou pas ?
Oui, bien sûr.
Oui ? Bon, Karim aussi ?
Écoute, je découvre.
Je découvre en venant à Beurre FM. Il y a un collectif, voilà.
Mais je suis curieux d'entendre.
Allez, on y va. 0153483000, vous le savez, c'est le numéro, c'est le vôtre d'ailleurs. Pause, pub, on se retrouve. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
19h21, si vous venez de nous retrouver dans Les informés, comme chaque soir de 19h à 20h, l'invité, le second invité pour parler, vous savez, de cette fameuse lettre menace de mort raciste reçue donc en direction du député de la Seine-Saint-Denis, monsieur Patrice Anato.
Les informés, l'interview.
Ne rien laisser passer, c'est ce que vous dites, mon cher député. Bonjour, monsieur le député Patrice Anato.
Bonjour, Adil.
Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour, dites-moi, Patrice. Vous avez décidé de, évidemment, de mettre aujourd'hui, d'en parler. Vous avez reçu un courrier avec un courrier avec des menaces de mort et des propos racistes. Racontez-nous, monsieur le député.
Oui, effectivement, comme vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, j'ai reçu aujourd'hui un courrier à l'Assemblée nationale.
Oui, c'est marqué pour les vendus de la République, effectivement.
Oui, et j'ai reçu ce courrier qui, pour moi, était un courrier abject, comme j'ai pu le dire.
Ben, c'est une horreur.
Et qui ne peut pas être toléré encore aujourd'hui. Je vous signale que depuis le début de notre mandat, certains de mes collègues et moi avons été tagués sur des sites ou des réseaux sociaux avec des propos haineux.
Non mais attendez, c'est effrayant, monsieur le député, on peut le dire, il y a quelques passages qui sont effrayants. Les legs dont vous faites partie sont une erreur de la nature et une honte pour notre République. Et grave, extrêmement. Un peuple retardé, sans âme ni cerveau. Plus loin, il dit, notre pays n'a pas besoin de nègres pour représenter ses citoyens. Je vous pose la question, monsieur le député. Est-ce que la parole n'est pas en train de se libérer? Ça y est, elle se banalise aujourd'hui avec évidemment ce qui se passe et cette ambiance, évidemment, exécrable.
C'est extrêmement grave, comme vous le dites.
Mais oui.
Je me rends compte aujourd'hui qu'il y a une libération de la parole décomplexée, mais dans le mauvais sens, et face au climat politique qui est le nôtre aujourd'hui et la brutalité des mots, il m'a semblé important, essentiel, et je pense même un devoir aujourd'hui de publier cette lettre que j'ai reçue. Ce genre de menace.
D'ailleurs, vous avez décidé de la publier sur les réseaux sociaux. Elle a été très relayée, très 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 relayée. Et vous avez et on vous avait reçu énormément de soutien, monsieur le député, monsieur Patrice Anato.
Oui, heureusement.
Et oui.
C'est pour cela que j'ai eu à le dire à certains de vos confrères aujourd'hui, que c'est une minorité d'ignorants qui continue à tenir de propos comme ça. C'est des infractions. Ce n'est pas une opinion, mais c'est une minorité qui fait mal. Et ça, il faut que nous puissions tous, toute formation politique confondue, dénoncer cela, parce qu'il y a un climat délétère aujourd'hui qu'il faut dénoncer et qui, justement, à mon avis, encourage certains à prendre l'initiative de tels propos très torturiers.
Alors, monsieur le député, face à ces menaces, à ces propos racistes, à ces propos haineux, à cette intimidation. Vous dites ne pas céder. Vous avez porté plainte? Qu'est-ce que vous en êtes où aujourd'hui?
Alors, j'ai effectivement adressé un courrier au procureur de la République, parce qu'il ne faut pas laisser ce genre de choses. Aujourd'hui, il ne faut pas laisser passer. Ça devient trop simple de se cacher derrière un écran ou dans l'anonymat et de dire tout ce qu'on a envie de dire. Ce n'est pas possible, c'est une infraction. Et ça dénote aussi du climat de ces élections présidentielles qui approchent. On voit bien certains brandir l'épouvantail de la haine.
Est-ce que vous craignez désormais pour votre vie, pour votre famille, votre entourage, lorsque vous sortez effectivement et lorsque vous vous rendez d'un lieu à un autre? Est-ce que, évidemment, cela vous rend parano?
Non. Écoutez, jusqu'à ce matin... je ne me posais pas de questions. Si je sors, est-ce que je vais être agressé? Quand bien même les agressions contre les élus sont devenues chose assez régulière.
Oui, bien sûr.
Si vous avez pu observer. Mais je me dis quand même qu'il y a une grande majorité de gens de bon sens et que cette chose, c'est quelque chose qui arrive par une minorité. Mais effectivement, aujourd'hui, maintenant que j'ai reçu ce courrier, je ne vais pas céder à la paranoïa.
Monsieur le député, monsieur Patrice Anato, est-ce que tout cela sous-entend qu'on va désormais, évidemment, on peut s'attendre à une campagne qui risque d'être, effectivement, pour le moins, qu'on puisse dire, comme vous l'avez souligné vous-même, avec ce climat délétère, une campagne qui risque d'être rude?
C'est déjà le cas. Si vous regardez bien certains... candidat ou un certain candidat et puis d'autres aussi qui le soutiennent et qui tiennent certains propos, on est déjà dans cette atmosphère délétère. Voilà, maintenant, il ne faut pas qu'on puisse être complice de ces propos. Et c'est pour ça qu'il faut les dénoncer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pris la décision de déposer plainte auprès du procureur et aussi de faire savoir aux Dominique qui sont...
Et nous, c'est notre rôle d'en parler. Et c'est aussi notre rôle parce que vous intervenez régulièrement, évidemment, dans les informés. Rudy Kazi, vous souhaitez interpeller donc le député, M. Patrice Anato?
Bah, avant de l'interpeller, déjà lui assurer mon soutien à mon ami Patrice Anato, le député de la 3e circonscription
de
la Seine-Saint-Denis, qui fait aussi partie de notre association d'élus, l'association des élus de France. On peut effectivement considérer que c'est totalement abject ce qu'il a subi, des menaces et aussi donc des propos à caractère raciste. Et il est vrai, comme il a souligné, qu'il y a une défiance et de plus en plus une violence qui monte vis-à-vis des élus, que ce soit une violence physique, que ce soit une violence verbale. On rappelle en 2020, 500 élus qui ont été agressés. Je pense qu'il est important de tirer les conclusions d'une société qui va mal. On parle beaucoup des violences qui sont faites aux femmes, on parle beaucoup de violences qui peuvent l'ensauvagement de la société, qui est un mot peut-être un peu fort, mais qui est souligné par des actes que l'on peut voir de plus en plus au quotidien, et en politique, effectivement, une montée de la violence dans les échanges verbaux, etc. Et il est vrai que la candidature menée par Éric Zemmour a tendance effectivement à exacerber cette tension.
C'est une montée de la violence.
Je vais libérer Patrice Anato. Justement, je voudrais qu'on parle de la lettre reçue par en direction de Patrice Anato, la lettre reçue raciste et évidemment et ses menaces de mort. Patrice Anato, monsieur le député, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes le député de la Seine-Saint-Denis. Merci d'être et prudence à vous, mon cher député.
Merci à vous. Et pour un dernier mot, je voudrais dire que je voudrais citer Jean de La Fontaine qui disait que la violence est une forme de faiblesse. Mais je suis persuadé que non seulement c'est une forme de faiblesse, mais c'est un aveu de faiblesse et aussi une ignorance qui devient dangereuse et qu'il faut combattre, ne jamais laisser passer.
Eh bien, écoutez, merci, monsieur le député, d'avoir été avec nous dans les informés sur BFM. Merci, Patrice Anato.
Merci, au revoir.
Autre sujet dans le même registre.
Oui.
Vous avez décidé, vous aussi, Sabrina Nourry, pour la France Insoumise. Tous les parlementaires de la France Insoumise apportent leur soutien plein et entier à leurs collègues, amis. Donc, vous parlez d'Alexis Corbière, vous parlez de Raquel Garrido, deux élus de la République. Qu'est-ce qui s'est passé? Des menaces aussi sur leur vie et de leur famille, des menaces de mort. Tiens, il y a avec une vidéo, on parle de tout le monde, là.
Il y a la députée Obono aussi qui a été pas loin, il y a pas longtemps.
Donc en fait là c'est plus qu'une montée de violence puisque là on en arrive à des menaces de mort. On voit un jeune qui a eu
des fusils, des armes
et puis qui tire
à
balles réelles.
On les voit. Hein.
Ah non on les voit très clairement. D'ailleurs on attend toujours la réaction du gouvernement du ministre de l'Intérieur.
Et il cible qui?
Et il cible donc nos collègues Alexis Corbière et Raquel Garrido, mais pas que, tous les antifas, les Algériens, les Marocains qui sont cités aussi dedans. Je pense que là on est rentré dans une spirale infernale parce que on monte en épingle
une spirale de haine et de violence.
Ben complètement, et parce qu'on monte en épingle des personnages comme Éric Zemmour.
On n'est pas loin de la guerre civile.
On leur donne la parole alors qu'ils ont été condamnés pour haine raciale. On leur donne la parole dans des grands médias, et aujourd'hui c'est plus que d'être décomplexé, c'est vraiment porter une idéologie à travers la France, à travers donc cette élection présidentielle. C'est absolument nauséabond, et donc on condamne bien évidemment les propos, les gestes aussi qui sont très choquants. Donc moi je soutiens bien évidemment le député de la 3e circonscription de Seine-Saint-Denis, bien évidemment que nous soutenons et nous ne laisserons jamais passer
face à ces intimidations.
Mais bien évidemment, et je soutiens mes amis Alexis Corbière et Raquel Garrido dans cette épreuve, bien sûr.
On revient en parler justement avec vous, Karim Alouache, qu'on n'a pas entendu. Tout de suite, le Quoi de Neuf, c'est parti, avec comme signature, comme chaque mardi, c'est celle de Faïza Ben Mohamed.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Bonsoir ma chère Faïza, comment ça va Faïza Ben Mohamed?
Bonsoir Adil, ça va très bien, merci, et vous?
Eh bien très bien, je vous remercie infiniment. Dans le Quoi de Neuf, vous avez décidé de consacrer votre carte blanche à l'affaire Omar Radad. On vous écoute ma chère Faïza, vous êtes journaliste indépendante.
Tout à Tout à fait. Alors effectivement, j'ai souhaité, mon cher Adil, revenir aujourd'hui sur l'affaire Omar Haddad qu'on connaît tous et dont on a énormément parlé ces derniers jours. C'est sans aucun doute, hein, et s'il fallait encore le rappeler, l'une des affaires criminelles les plus médiatiques de notre histoire récente. Hein. Et ce qu'il faut évidemment souligner, c'est qu'au-delà de l'exposition publique, si cette affaire elle a tant fait de bruit, c'est principalement et surtout parce qu'elle est probablement une erreur judiciaire et qu'elle a manifestement contribué à la destruction d'un homme innocent. Quand on relit les comptes rendus des faits, des éléments à décharge surtout, parce qu'il y en a énormément, on se demande même comment la justice, en dépit de toutes les incohérences qui sont contenues dans le dossier, eh ben, elle a condamné Omar Haddad sur la seule base d'inscription en lettres de sang. Qui peut croire qu'une femme agonisante a pu se relever pour écrire sur une porte « Omar m'a tué » sans oublier, bien sûr, les personnes qui ont vu cette écriture, l'apostrophe, et avec la fameuse faute d'orthographe avec le R à la fin de tout ce qu'on a tous vu. À titre évidemment personnel, mais au vu des nombreuses réactions que j'ai vues passer sur les réseaux sociaux comme dans la presse, je ne pense pas être la seule, hein, je me réjouis très sincèrement de la décision de la Cour de révision de rouvrir ce dossier emblématique. C'est une procédure qui est vraiment rarissime en France.
Exact.
On a eu plus de 9 révisions de procès depuis 1945 et qui peut donc aboutir à un nouveau procès et innocenter Omar Haddad qui, rappelons-le, ne doit sa libération anticipée qu'à une grâce partielle de Jacques Chirac obtenue après une intervention directe du roi du Maroc. Donc, aux yeux de la justice, Omar Haddad est toujours coupable du meurtre de son ancienne patronne Ghislaine Marchand. Alors je voudrais faire un parallèle parce que depuis des mois, il y a énormément de militants, d'ONG, d'avocats qui dénoncent une justice d'exception vis-à-vis des musulmans notamment et des minorités plus globalement. Et je crois que l'affaire Omar Haddad vient montrer que cette justice d'exception qui peut toucher les musulmans aujourd'hui a déjà visé l'arabe hier. Alors je voudrais finir avec, et ce sera vraiment mon mot de la fin, en rappelant les mots de l'ancien avocat d'Omar Haddad, maître Jacques Vergès, qui s'était exprimé juste après le verdict qui était rendu donc en 1994, mais qui condamnait son client à 18 ans de réclusion criminelle. Et là, on ouvre les guillemets. Il y a 100 ans, on condamnait un officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le seul tort d'être maghrébin.
Belle chute, effectivement. Bravo pour ce billet d'humeur, ma chère Faïza Ben Mohamed, journaliste indépendante, mais également aussi militante. La semaine prochaine, nous serons donc en repos et on vous retrouve à la rentrée, sans faute.
Sans faute, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes. Ceux qui fêtent Noël, joyeux Noël à tous. Ceux qui ne fêtent pas, ben, bonne fête de fin d'année. Bonnes vacances à tous.
Bonnes vacances aussi également. Vous prenez un peu de repos quand même pour changer d'air?
Non, pas de vacances pour...
Et bien surtout bon courage, ma chère Faïza.
À bientôt, Adil.
À la rentrée, effectivement, sans faute, 19h34, nous marquons donc la seconde page pub. On vient écouter Karim Alouache sur évidemment ce sujet des intimidations, des propos racistes qui se lâchent, ça y est, ça se libère de plus en plus. Est-ce qu'on peut pas s'attendre évidemment à de tels propos qui vont s'installer dans le paysage de plus en plus, hein, comme le disait Sabrina il y a une poignée de minutes là. Et puis on parlera aussi, vous savez, des autres seconds sujets qui ont retenu notre attention. Tout de suite, ne bougez pas.
Les informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les informés avec Adil Farkan.
Les informés c'est avec Rudy Kazi, Les informés c'est avec Karim Alouache, Les informés c'est avec Sabrina Loury.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face est avec trois débatteurs influenceurs qui sont avec nous. Et je voudrais entendre évidemment la réaction de Karim Alouache. Karim Alouache, la parole qui se libère, les intimidations, les propos racistes, les menaces de mort. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre évidemment à cette montée qui s'installe dans le paysage désormais, ou est-ce que ce n'est pas déjà le cas, Karim Alouache, quand on parle du cas de Patrice Anato ou d'Alexis Corbière avec cette vidéo?
Je condamne toute forme de violence, quelle qu'elle soit, et je trouve ça grave qu'on puisse envoyer de tels courriers. Malheureusement, il y a déjà eu des agressions, il y a des maires qui se sont fait agresser. Il y a des maires adjoints qui ont été violentés, qui ont été tués.
Le maire de Stain, plus récemment.
Oui, voilà. Le maire de Stain. Tout à fait. Donc, il y a les lettres d'intimidation, mais il y en a qui sont déjà passées à l'acte, et je trouve ça très grave. Et ça devrait être une circonstance aggravante.
Le maire de Saint-Denis.
Voilà.
Le maire de Saint-Denis,
quand
pareil.
On porte atteinte.
On est venu dans sa porte carrément écrire.
L'île
Saint-Denis, pardon.
Voilà, un élu de la République, ça doit être considéré comme une circonstance aggravante. Et là-dessus, il faut être vraiment intransigeant. Maintenant, je vous rappelle qu'on vit dans un climat délétère, un climat de violence mentale, de violence raciale. c'est que de la surenchère. En fait. Vous regardez, ça n'arrête pas.
Ça sent pas bon. Hein.
Non, mais on nous a sorti du voile, du communautarisme, ah bon, on va en parler, l'islam, là. Mais on en a tellement, tellement sorti que même celui qui est aux antipodes de ça, à un moment donné, c'est comme si on voulait conditionner une population. La deuxième chose, c'est que comme ce n'était pas suffisant, et comme le Rassemblement National n'était pas assez virulent dans l'extrême, on nous sort un faux candidat. Moi, j'appelle ça un lièvre. C'est comme dans les marathons, vous savez, pour faire des records, on met un lièvre devant. Donc ça, c'est le rôle de Zemmour. Et il a des financiers, des gars pour payer, hein, pour le financer et faire ça, parce qu'on ne part pas en campagne présidentielle quand on n'a pas de programme, et ça ne s'improvise pas, on ne fera pas croire ça. Et il roule pour quelqu'un, et on finira par savoir pour qui il roule. Mais ce que je trouve grave, c'est qu'on a légitimé sa parole. On a donné une recevabilité à sa parole en faisant un candidat. C'est ça qui est dangereux aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux être candidat sur un programme qui est la détestation de l'autre, ou la détestation de la religion de l'autre, ou même l'appel à la haine de l'autre. C'est complètement impensable. Je veux dire, qui aurait imaginé ça il y a quelques années? C'est pour vous dire le niveau que nous avons atteint. Et il faut, à un moment donné, je crois, mettre fin à ça. Ça ne peut plus durer.
Ça va justement, être ça va être très compliqué. Hein,
pourquoi? Parce que Éric Zemmour, on le connaît depuis longtemps. Ça fait des années qu'il répond, on va dire, sa pensée au travers de livres, etc., qui en plus ont du succès. Mais moi, je vois aussi que, pour être un peu plus nuancé, mais être d'accord avec toi, mais assez nuancé quand même sur le truc, c'est que ça va être difficile, en fait, d'arrêter quelqu'un comme Zemmour, parce qu'il est aussi le porte-voix d'une population en France que l'on peut pas... Très à droite, que l'on ne peut pas tous qualifier de raciste. Certains le sont, d'autres ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans son corpus idéologique, Zemmour va aussi parler du déclassement des classes populaires, etc., de la grande périphérie française, dans laquelle certains Français vont se reconnaître sans pour autant se sentir racistes. Vous voyez? Mais le problème, c'est que ces Français, dès qu'ils vont, en fait, ils vont parler peut-être d'une transformation un petit peu de leur environnement, etc., qui ne ressemble pas forcément à la France qu'ils ont connue, on va tout de suite les taxer de racistes. Et donc, du coup, ça va donner de la puissance et du poids à quelqu'un comme Éric Zemmour, qui va, au contraire, lui instrumentaliser des questionnements qui peuvent être, entre guillemets, légitimes par rapport à ces populations, et donner de la force à d'autres populations qui souhaitent qu'il y ait un porte-voix, des populations en tout cas qui peuvent être racistes, qu'ils aient un porte-voix. Mais à côté de ça, Zemmour, il a prospéré dans les médias. Et pas uniquement dans la chaîne que l'on connaît avec une émission. Il a prospéré dans des médias dits de préférence un petit peu gauchistes, etc. Donc en fait, moi je pense que c'est un monstre froid qui a grandi, qui s'est nourri dans les médias, qui s'est nourri aussi d'un constat sur l'échiquier politique, et qui aujourd'hui existe et qui sera très difficile de déboulonner. Pourquoi? Parce qu'on assiste à quelqu'un qui a su maîtriser la parole politique pour parler à une population, mais en s'enfermant dans un camp plutôt que dans un camp. C'est-à-dire aujourd'hui on assiste à la polarisation des points de vue dans la société. C'est ça qui nous tue.
Et ça ne fait que commencer.
C'est le manque de nuance.
La campagne, c'est dans 3 mois et demi. Les amis,
on l'a vu dans les débats,
ça ne fait que commencer. Hein.
Contrairement à ce que certains pensaient, c'est pas quelqu'un de brillant, Zemmour. Hein. Il n'est pas brillant dans les débats. Il a pas d'idée pour faire avancer notre pays, pour régler les problèmes, pour traiter les sujets d'économie.
Il est rusé. Je ne valoriserai jamais
qui appelle à la haine, parce que d'abord, on n'a pas.
Il ne s'agit pas de le valoriser. On est d'accord.
Il n'est pas brillant.
Dire qu'il n'est pas bon dans les débats, c'est pas ce qu'on a vu à la télé. Il y a des. Moi, j'ai vu des personnes affronter Zemmour en débat, qui était moins bon que lui, et on n'a jamais
Sabrina
mis en face de lui.
Il est bon, il est pas bon.
On n'a jamais mis en face de Zemmour des personnes qui étaient capables de vraiment boxer et l'écraser.
C'est pas
qu'il
est bon, qu'il est pas bon à partir du moment où la droite a arrêté de parler à son électorat et est allée essayer de draguer l'électorat d'extrême droite pour récupérer les électeurs et les électrices de Marine Le Pen. On a compris et on connaît maintenant le résultat de ce scénario qui est catastrophique.
Gardez la parole puisqu'il est 19h45 précisément. Un second sujet. On est obligé d'avancer.
Allez, on y va.
Le collectif dénommé les Hijabeuses a saisi le Conseil d'État afin d'obtenir l'annulation du règlement interdisant de jouer au football voilé. Cette demande, vous savez, Elle intervient en réponse à une proposition de loi déposée il y a quelques jours par des sénateurs Les Républicains qui a pour but d'assurer les principes de la laïcité dans le sport. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire effectivement? Alors, ça relance le débat. Hein. D'ailleurs, je vois même d'ailleurs des articles qui mettent en cause la laïcité. Je vois même d'ailleurs... La France va-t-elle céder aux footballeuses voilées?
Mais c'est ce que je viens de dire. Quand la droite arrête de parler à son électorat et elle va aller draguer l'électorat, bah maintenant on va dire de Zemmour et de Marine Le Pen, on en arrive à des propositions de loi comme ça. Aujourd'hui, on est toujours obligés, nous les femmes, de s'excuser de comment on doit s'habiller, comment on doit faire pour comment le faire. Il y a la loi de 1905 qui sépare l'Église, et aujourd'hui on met l'Église entre guillemets puisque c'est tous les cultes, et l'État. Eh bien, on continue avec cette loi de laïcité qui sépare l'Église et l'État. Aujourd'hui, il y a des beach volleyeuses qui ont demandé d'arrêter de s'habiller en bikini. Elles ont dû aller très très loin pour que la fédération accepte qu'elle joue en t-shirt et en short. Et là c'est encore, exactement. On nous fait le remake avec des femmes sportives qui ne sont pas rattachées à l'État, qui sont juste sportives, donc quel que soit le niveau, et on va les empêcher de pratiquer leur sport comme elles veulent, de la façon dont elles veulent.
Alors, un tour de table, justement.
Et c'est un droit fondamental de disposer de son corps.
Un tour de table, Rudy Casi.
Fondamental de disposer de son corps. Je regrette que la droite ne l'entende pas.
Votre point de vue, Rudy Casi et Karim Alouache.
C'est un petit peu plus complexe que ça. Alors après,
c'est toujours complexe quand il s'agit des femmes. Hein, vous l'avez remarqué.
Enfin, je ne sais pas si je dois te. Pardon, tu vas comprendre. Il n'y a pas de problème. Tu vas comprendre ce que je veux dire. En fait, donc, ce sont des joueuses de football qui sont donc régies en fait par le règlement donc de la Fédération Française de Football.
Oui.
Or, ce règlement
prévoit.
La Fédération Française de Football agit sous la tutelle de l'État.
Oui.
Ouais. Et donc, du coup, il y a un règlement qui fait que sur les terrains, ils ne doivent pas être exposés de signes religieux, etc. Ça fait des années qu'on le sait, ça fait des années qu'on en parle. Que ce soit des signes des croix, etc. Donc, alors, comme le hijab, effectivement, fait partie d'un signe religieux, c'est par rapport à ce règlement-là qu'il est donc du coup interdit de porter le. Alors après, il y a un débat, qu'est-ce qu'il faut changer, etc. Là-dessus, je ne tranche pas, mais en tout cas, c'est complexe parce que il y a cette réglementation-là. Ensuite, j'ai vu que le collectif effectivement avait fait un recours auprès de la FIFA.
Ouais.
Les hijabeuses, effectivement. Mais il se trouve que le problème, c'est que la FIFA n'a aucun droit sur la FFF. La FIFA a un droit sur la FFF lorsqu'il s'agit en fait de football international.
C'est deux instances différentes.
C'est deux instances différentes. Donc en fait, on mélange un petit peu tous les genres et après il y a un buzz qui se fait, comme si on essaye en fait de faire en sorte que la Fédération Française de Football puisse être taxée de racisme.
Certains même disent que c'est la discrimination. C'est la mainmise des Émirats Arabes Unis.
Ouais.
Enfin, du Moyen-Orient.
Ouais, faut pas exagérer quand même.
Certains disent ça.
Mais en tout cas, je trouve que c'est un faux débat. Maintenant, effectivement, sur, je sais pas, tu te rappelles, on en avait parlé lorsque Decathlon avait retiré.
Oui.
Le hijab sportif,
oui,
etc. Moi, je m'étais insurgé contre ça parce qu'effectivement, les femmes ont le droit de s'habiller comme elles veulent, qu'elles soient en topless à la plage. Moi, je partage pas, mais ou qu'elles soient habillées de la tête aux pieds avec un équipement adapté. Moi, pour moi, ça me paraît normal parce que c'est l'espace public. Or, la laïcité, elle s'applique sur les représentants de l'État dans la fonction de leur travail et pas dans l'espace public.
Alors, écoutez, Karim Alouache. Karim Alouache.
Pour venir au monde du sport. D'abord, je vous rappellerai une chose, c'est que la championne olympique américaine d'escrime, elle porte un hijab floqué d'ailleurs au drapeau américain et chez Nike. Donc la deuxième chose, moi j'ai entendu l'autre jour sur une émission de football quelqu'un dire on n'a pas le droit d'évoquer les religions. Tous les grands joueurs tous les grands footballeurs italiens, brésiliens, quand ils rentraient sur le terrain, ils se signaient.
Oui, ils font des signes.
Tu t'en rappelles?
Oui, je m'en
rappelle. Ils se signaient.
Bien sûr, je m'en rappelle.
Ils se signaient. Il y a toujours eu.
Bien sûr, il y a
dans le football,
cloche-pied.
Dans le football,
connaît,
il y a toujours eu de la religion.
Mais pas que des Brésiliens, des Français aussi.
Ça, s'il te plaît, je vais finir parce que si tu me coupes à chaque fois, c'est un peu.
Non,
un peu
je te coupe pas, je mets de l'eau dans ton moulin, il n'y a pas de problème.
Laisse-moi finir, c'est désagréable et on perd le fil.
Vous vous offusquez pour rien, franchement.
Ce que je veux dire, c'est que la religion, dans les enjeux sportifs, a toujours été présente. C'est pas une nouveauté. Et les joueurs italiens le faisaient, et quand ils marquaient un but, ils sortaient de sous leur maillot, leur croix, ils l'embrassaient, etc. Aujourd'hui, ça devient un sujet, ce qui n'existait pas.
Ouais, mais là, on est Jabeuse, en France, on n'est pas en Italie.
C'est pas les mêmes lois.
Comment ?
C'est pas les mêmes lois.
Non, mais je parle pas d'Italie, c'était partout.
Attention, mais certains polémistes vous diront, les États-Unis, c'est les États-Unis, la France, c'est la laïcité.
Non, mais c'était en Italie, en Espagne, même en France. Même sur les terrains en France, on le voyait, des grands footballeurs le faisaient.
Absolument.
Et continuent à le faire aujourd'hui, d'ailleurs. Ça dérange. Faut pas créer des sujets pour créer des sujets ou créer des sujets pour avoir des polémiques. Moi, ce sujet-là, je ne connaissais même pas. Sincèrement, je ne le connaissais même pas. Je le découvre.
Franchement, c'est un faux débat.
Moi, je me dis, c'est un faux débat. C'est encore une perte de temps. Il y a combien de demandes là-dessus? Est-ce que ça change le cours d'une vie ou d'une existence? Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui.
Vous remarquerez qu'il y a des joueurs musulmans qui font des
sujets
à la fin
autour
pour célébrer
des
buts. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a jamais de sujet là-dessus.
Ça devient des proportions.
Mais encore une fois, les femmes doivent se justifier. Ouais. Les femmes sont attaquées. Les femmes doivent.
C'est votre sentiment, Sabrina Norik?
Je suis désolée, c'est bon. À un moment donné, nous, on en a ras-le-bol, en fait.
Quand on entend dire que les femmes
sont
pas capables.
Quand il y a des hommes footballeurs ou autres sportifs qui mettent un bonnet pour attacher leurs cheveux, on leur dit quoi? On leur dit non.
Franchement, je pense qu'on mélange les choses.
Non, il n'y a pas à mélanger. La femme est libre de son. La femme.
Pour fêter leur but.
C'est un droit fondamental de disposer de son corps.
Il n'y a jamais de
polémique. C'est un droit fondamental de disposer de son corps.
Là, c'est par rapport à un règlement.
Et
la FFF n'a pas eu en fait de déclaration offensive contre les joueuses.
On n'aurait pas du tout eu le même procès avec un homme.
Non, c'est un faux débat.
C'est pas un faux débat.
Combien ça concerne?
C'est la réalité. C'est la réalité. Vous êtes un homme, vous ne savez pas. Vous êtes un homme, vous ne pouvez pas vous mettre à notre place. On est systématiquement discriminé, stigmatisé.
Alors là,
une femme voilée c'est le bonbon.
On mélange tous les débats. D'ailleurs, en plus, la FFF.
La semaine prochaine, on aura un nouveau débat. Et ça sera pour les femmes.
Là, le sujet, c'est un règlement qui empêche à ces joueuses de pouvoir porter le hijab. Et ce règlement s'applique à tout le monde. Mais lorsque vous voyez des footballeurs chrétiens qui font la croix.
Non, mais ce règlement s'applique à tout le monde.
Après,
non, il ne s'applique pas à tout le monde.
Il n'y a jamais de polémique.
Mais
bien sûr que si. Les joueurs, vous voyez pas
des joueurs. Ce que veut dire Sabrina Norik, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures. Voilà.
Mais pas dans le cadre de ce règlement.
Bah si, parce que les joueurs hommes, en tout cas, ils ont le droit de faire des signes, etc. Et que la femme,
mais les joueuses de foot ont le droit de faire des signes aussi. Là, il ne s'agit pas de signes faits avec les mains, il s'agit de quelque chose qui est porté sur le corps.
Et ça
qui
vous
est
dérange
visible. Mais ça ne me dérange pas, je dis que c'est le règlement.
Allez, on passe au dernier sujet, messieurs. Allez, on va rendre l'antenne, s'il vous plaît.
J'ai bien dit.
S'il vous plaît.
Moi, je suis pour les signes de religion.
S'il vous plaît, dernier sujet.
Je suis pour les signes de religion. Je dis juste que c'est un faux débat.
Et surtout ne pas faire pour fêter les fêtes de fin d'année. Comment peut-on avoir l'esprit tranquille, s'il vous plaît? Comment peut-on avoir l'esprit tranquille? Est-ce qu'il faut aller se faire tester? Est-ce qu'il faut limiter le nombre de convives? Qu'est-ce que vous recommandez, évidemment, puisqu'on a, ça y est, on est à quelques jours des fêtes de fin d'année. Il y a des recommandations, bien sûr. Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous dites, vous, les acteurs de terrain? Sabrina Norik.
Moi, je commence.
Oui, allez-y.
Non, mais je suis.
Comment fêter? Comment passer de bonnes
fêtes? Je suis très déçue d'une chose. On avait demandé à ce que les tests soient gratuits. Ça n'est toujours pas.
C'est vrai, je confirme.
Donc, aujourd'hui, on va faire porter la responsabilité aux familles, aux parents, aux enfants. Ben, voilà, il y en a beaucoup qui ne vont pas se faire tester, à mon grand regret, parce que c'est payant. Et c'est ce qu'on avait demandé.
Pour les vacciner, c'est gratuit.
Oui, pour les vacciner, c'est gratuit, mais tout le monde n'est pas vacciné. Donc, il faut aussi porter des mesures pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés. Maintenant, bien évidemment qu'il faut être responsable. Normalement, se faire tester avant d'aller en famille faire la fête.
C'est mieux quand même.
Et puis, oui, c'est beaucoup plus...
Surtout si vous avez de grands-parents.
Bah, c'est beaucoup plus responsable. Et puis, c'est pour le respect de ses aînés et puis de ses enfants. Je pense que c'est important de se faire tester, être sûr qu'on n'est pas... qu'on n'a pas la Covid en nous.
Alors moi, Karim Alouache et Rudy Kazi.
Tout d'abord, on n'a pas besoin d'attendre des lois pour être prudent et faire attention à son entourage. Tout à fait raison. Je veux dire, les fêtes de fin d'année, les rassemblements familiaux, il faut faire attention, notamment aux gens d'un certain âge, parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, moi, dans mon entourage relationnel, pas familial, mais relationnel, là, je peux vous donner 4 décès d'un coup de gens de plus de 70 ans non vaccinés. Ils sont tous décédés en vert.
Tous
non vaccinés, tous décédés. Et le comble, c'est que c'est une querelle familiale entre les pro-vaccins, les anti-vaccins.
Bon,
la réalité, elle est là. Et j'ai un autre exemple aussi d'une personne avec un cas de morbidité sévère, plus de 75 ans, et qui n'est même pas allé à l'hôpital, et qui a été sauvé. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que pour les fêtes, pour les fêtes,
attendez, parce qu'on doit rendre l'antenne. Vraiment, il me reste quelques secondes.
Pour les fêtes de fin d'année,
moi, j'ai rien dit, moi.
La prudence. Je vous donne la parole. 5 secondes.
Faites-vous, testez-vous. Il y a plein de tests. Même si c'est payant, c'est pas grave. Mais testez-vous avant de rencontrer vos proches, et surtout pour tous ceux qui ne veulent pas se faire vacciner.
Redis quasi. Faites-vous vacciner. Redis quasi. Allez-y, vite, s'il vous plaît.
Non, mais effectivement, je pense qu'il faut se faire tester, c'est le mieux qu'on puisse faire pour pouvoir protéger sa famille. Après, effectivement, sur le vaccin, si certains veulent se faire vacciner, qu'ils se vaccinent. Si certains pensent qu'effectivement, qu'avec une politique de test, mais malgré tout que ce soit payant pour pouvoir protéger leur famille, eh ben qu'ils le fassent. Ce qui est important, c'est que vraiment la liberté de conscience soit respectée dans cette opération.
Messieurs, madame, Sabrina Nouri, qu'est-ce qui se passe?
Elle a déjà quitté le plateau.
Non, je suis là.
Sabrina Nouri, à très bientôt. Merci à vous.
Merci. Très bonne fête de fin d'année.
Absolument. Karim Alouache, bonne fête de fin d'année. Merci à vous.
Merci. J'embrasse tout le monde. Passez de très belles fêtes.
Rudy Kazi, passez de bonnes fêtes.
Merci, Adil.
Parce que la semaine prochaine, nous ne serons pas là pour quelques jours.
On se retrouve à la rentrée. Début 2022.
À la rentrée. Un petit mot pour mon neveu.
Oui, allez-y, rapidement.
Il a réussi le concours du barreau de Paris.
Bravo.
Il en a chié. Donc, Yannis, je te félicite.
Et moi, j'embrasse mon fils. Il voulait absolument que je lui dédicace ce soir.
Et bon, on l'embrasse. Il s'appelle comment?
Adam.
Bisous,
Adam.
Ta maman t'embrasse, mais on t'embrasse aussi.
Et moi, j'embrasse mon petit frère qui fête ses 20 ans aujourd'hui.
Bon anniversaire.
Ah, moi, c'est demain.
Jean-Thomas, joyeux anniversaire.
Moi, c'est Jean-Thomas, bon anniversaire. Et ça, c'est demain. Allez, c'était l'émission dédicace. On slash. Bilal Ledman, dans une poignée de minutes, de 20h à 21h, à la réalisation. C'était Yannis. À demain. Nous, on est là demain. Moi, je suis là. À demain, avec autant de plaisir. On ne lâche rien. Tu sais que ton jet là, il est parti jusqu'au réalisateur. Tu l'as touché. Le gel hydroalcoolique s'est projeté jusqu'à notre réalisateur de l'autre côté. Côté réalisation, il est balèze, notre Karim Alouache. Allez, à demain avec autant de plaisir.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.